L'image que j'ai de moi petite, c'est 1984. Carmen est tombée dans le domaine public. On l'entend partout. Il y a trois films, il y a celui de Godard, enfin, il y en avait plein. Et j'ai une jupe à volant dans la cour et je me prends pour Carmen et je chante à tue-tête. Voilà, c'est un moment très heureux. Ça n'a rien à voir avec ce que je vis maintenant, mais peut-être que d'avoir justement vécu ça, notamment avec mon père dans mon enfance, m'aide à garder quelque chose de joyeux, bien que ça soit une douleur immense, dans la relation que j'entretiens avec mon père. Cette joie, en tout cas, est restée. J'adorais aller à l'école, j'étais très sérieuse, je m'avançais beaucoup dans mes devoirs, si bien que c'était à la fin complètement délirant, parce que je m'avançais de l'avance, donc je travaillais tout le temps. Je sais pas, ça doit être une forme d'hystérie scolaire que j'ai conservée, malheureusement, puisque je suis toujours à l'école. Et j'étais de très bonne humeur, très bavarde, mais sage, disciplinée.
À quoi elle ressemblait votre école Marin-Goyer? Est-ce que vous pouvez nous la décrire ou nous décrire le chemin vers l'école? Quelles sont les images qui ressurgissent aujourd'hui?
J'y allais d'abord tous les matins justement avec mon père qui venait aussi me chercher le midi. Il me ramenait l'après-midi, allait me chercher à 4 heures et souvent je faisais semblant de ne pas le reconnaître quand il venait me chercher parce que c'était une école assez bourgeoise du 15e arrondissement et j'avais le père un peu hippie avec les cheveux longs, des sortes de grosses bottes, des vestes sans manches en mouton. Donc il m'arrivait parfois de faire semblant de ne pas reconnaître mon père à la sortie tellement j'en avais honte. Mais maintenant il se venge, il ne me reconnaît plus lui non plus.
Lui, votre père, était scénariste dans ces années-là, un homme d'une grande culture et d'une, je vous cite, hein, d'une perpétuelle fantaisie, fumant ses Craven A à son bureau et lâchant devant vous des idées panthéistes.
Oui, il m'apprenait des choses absolument sans arrêt, toute la journée. J'ai beaucoup appris de choses par oui-dire en fait. Souvent à l'école je brillais parce que mon père m'avait dit des choses la veille. J'ai des souvenirs très précis. Par exemple une fois en anglais, en seconde, on étudiait une nouvelle d'Edgar Poe et mon père m'a dit, tu sais, Prospero c'est le héros de la tempête de Shakespeare. Je la regardais de haut en disant, mais arrête tes conneries avec Shakespeare, tu m'ennuies. Le lendemain quand même je tente en classe de dire, mais Prospero c'est pas le héros de la tempête de Shakespeare. La prof a cru que j'étais un génie, c'était une usurpation totale. J'avais jamais lu la tempête de Shakespeare, mais j'ai eu beaucoup de succès en classe grâce à ce que me racontait mon père.
Et vous ne vous êtes jamais révolté, parce qu'on connaît bon nombre d'enfants qui ressentent une telle pression intellectuelle, une telle exigence de la part de leurs parents, qui se détournent de cet univers-là. Vous ne vous êtes pas détourné.
Non, jamais, parce que c'était une exigence séduisante. Le but, c'était pas d'être un premier de la classe sinistre, ni un sage savant. Le but, c'était de se marrer avec la culture. La culture était là sans arrêt. On dînait avec des dictionnaires sur la table. On rigolait tout le temps. Les personnages de romans, c'était nos amis. Je vois pas pourquoi je me serais révoltée. C'était vraiment très marrant et j'espère vraiment avoir reçu ça et le transmettre.
Oui, d'ailleurs, il y a dans votre livre « Ça va mieux ton père ». Un passage dans lequel vous ponctuez d'exemples précis l'idée de transmission familiale, cette idée-là. C'est par exemple, je vous cite, « Mon fils sait qu'il devra, après le latin, faire du grec en troisième. C'est à moi qu'il le dit, c'est à mon père qu'il obéit. » Ou encore, un autre exemple, « Mes enfants mettent leurs coudes sur la table, ils font ça pour emmerder mon père, mais ils ne le savent pas. »
Oui, alors les coudes sur la table, c'est complètement arbitraire, mais c'est une sorte de toc chez moi. C'est pas glorieux. En revanche, le latin et le grec, c'est chez mes deux parents, c'est d'une importance capitale. Je crois que personne n'a été un génie en latin et en grec, ni eux, ni moi, ni mes enfants nous verront. c'est en cours. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, en tout cas, qu'ils avaient de la culture. Et puis, je crois que le modèle culturel de mon père, c'était Rabelais. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois être érudit, parler 5 langues anciennes, connaître parfaitement la Bible, être marrant, faire des blagues scatologiques et être décontracté. Et cette vision de la culture rabelaisienne qu'il m'a transmise, voilà, j'espère la transmettre.